Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix. Nous sommes le vendredi 11 janvier et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment ça va, ma chère?
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Bruit de couloir, rumeurs, commérages, la vie de bureau, c'est aussi ça. Être en communauté, c'est s'exposer au racontard. Elle couche avec le patron ou on se demande bien comment elle a pu s'acheter une telle voiture. Les rumeurs vont bon train. En entreprise, les conséquences des ragots peuvent être violentes. Isolement, déprime, incompréhension, voire harcèlement moral. Comment s'en prémunir? Comment faire face à la mauvaise réputation? Comme le chantait Georges Brassens.
Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi.
Rumeurs, ragots au travail, que faire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez comme chaque jour le 39,21,50 la minute. Comme chaque jour, vous nous écrivez Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Leslie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Leslie.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous?
39 ans.
39 ans. Alors Leslie, pendant 10 longues années, vous avez été victime de votre responsable qui vous avait pris pour cible, au point de colporter des rumeurs sur vous. Comment ça a commencé tout cela?
Alors c'est vrai qu'en introduction, vous parliez de rumeurs qui peuvent accompagner un harcèlement. Alors en fait, c'est à peu près c'est ça en fait hein, qui s'est produit, c'est que les rumeurs se sont installées avec le harcèlement. Alors comment elles s'y prenaient, comment ça a débuté? Tout simplement, en fait, déjà, les rumeurs vont dans les deux sens. Hein. On peut dire des choses sur vous, puis on peut vous faire croire que les gens disent des choses sur vous. C'est une des armes de la personne qui va harceler. Il y en a plein, puis, mais en tout cas, les rumeurs vont servir à isoler la personne. Et moi, ça a débuté un peu comme ça. Déjà, elle m'a fait croire que les gens disaient des choses horribles sur moi, comme par exemple que j'étais quelqu'un d'une peau de vache, que en fait, je médisais sur les gens. Elle me disait que les gens disaient ça de moi.
Ouais.
Donc, voilà, c'est un peu bizarre, oui, parce que ça fait multi-rumeurs, mais c'est un peu comme ça s'est produit, oui.
Elle vous a humilié hein, pendant longtemps, elle vous rabaissait, hein, cette femme. Que faisait-elle, par exemple?
En rumeur, vous voulez dire?
Non, est-ce qu'elle elle vous a humilié plusieurs fois devant vos collaboratrices ou en faisant peut-être référence à ces rumeurs?
Oui, alors, oui, mais ces humiliations étaient même plus fortes que ça, hein, puisque j'ai même été attachée à ma chaise et elle appelait les collaborateurs pour voir, pour se moquer de moi.
Comment ça, voilà, attachée à votre chaise?
Oui, en fait, du coup, comme c'est un pervers narcissique, il s'avère que les pervers narcissiques, c'est très, très populaire et c'est très drôle, en fait, de s'en prendre à une victime et d'appeler les gens pour que tout le monde, en fait, participe de la ridiculisation de la victime.
Donc, ouais.
Et elle a pris un jour du gros scotch, elle m'a attachée et après elle a appelé tout le monde pour que, en fait, on rigole parce que j'arrivais pas à me détacher de ma chaise. Mais ça, c'est des agressions physiques qui se sont produites. Après, par exemple, elle prenait des photos de moi régulièrement et elle avait fait un petit dossier et elle appelait les gens pour, en fait, que tout le monde vienne autour d'elle et regarde ces photos en disant oh, mais qu'est-ce que tu es laide, oh, mais regarde cette photo, t'es encore plus moche que l'autre. Donc ça, c'était vraiment des choses assez régulières. Par contre, effectivement, vis-à-vis des rumeurs, ce qu'elle faisait plutôt, c'était plutôt un travail de sous-main. C'est-à-dire que, du coup, elle me faisait croire que les autres disaient des choses sur moi. Et moi, en fait, à chaque fois que je disais quelque chose, par exemple, je ne sais pas, moi, une collègue va s'acheter un pull et je le trouve pas forcément super joli, par exemple. Je vais dire, oh, bah, moi, j'aime pas trop cette couleur. Mais elle va répéter à l'autre collègue que j'ai dit que... Enfin, que j'avais dit que la couleur était très moche et que ça lui allait pas et que ça faisait vieille. En fait, elle amplifiait ce que je disais, elle le déformait. Et du coup, moi, je devais me justifier. Mais le problème, c'est que ça me positionnait comme une petite fille. C'est ça le problème de la rumeur.
Mais parce
c'est
que
qu'à
vous,
un moment donné, voilà.
vous subissiez totalement, en fait, la rumeur. En tout cas, la source de la rumeur, là, elle a été clairement identifiée à travers cette femme.
Oui, tout à fait. Elle a clairement été identifiée. D'ailleurs, elle a fait ça avec d'autres personnes qui sont parties en dépression. Moi, ça m'a complètement isolée. Au bout de 10 ans, plus personne mangeait avec moi.
Ça vous mettait...
Plus personne ne voulait me parler.
Ça vous mettait en danger psychologiquement et dans l'entreprise, je suppose.
Oui, ça m'a mis beaucoup en danger puisque il y a une fois, en fait, comme je n'avais pas de rapport avec mon directeur, hein, tout passait par cette responsable. Oui. Eh bien, en fait, elle a fait croire à mon directeur un certain nombre de choses sur mon travail, par exemple, en disant bah, Julie se permet de donner des informations à la concurrence, mm-hmm. ou des choses un petit peu comme ça. Donc là, c'est très grave, hein, parce que mm-hmm. là, ça attaque vraiment le travail de la personne. Et un jour, en fait, j'ai été privée de réunion. Le directeur ne voulait plus me parler. En fait, il me parlait que par personne interposée. Il ne voulait plus que je vienne dans son bureau. Enfin, ça m'a isolée professionnellement parlant. En plus, elle faisait courir des bruits avec nos filiales qui étaient. Non, il y avait d'autres. On avait des filiales et donc elle faisait courir des bruits sur moi avec sur mon travail sur d'autres filiales. Et il y a un moment donné, j'étais isolée de toutes parts. À la fois.
Leslie, restez en ligne avec nous. On va continuer à parler de votre histoire et justement de voir quelles ont été les conséquences assez gravissimes pour vous de cette femme qui colportait ces rumeurs sur vous.
La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, à la messe et à midi. Entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancan. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines, à la sève de venin. Avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins.
Un arbre sans racines à la sève de venin, la rumeur d'Yves Duteil. Vous êtes victime de bruit de couloir au travail. On vous écoute au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Nous sommes toujours en ligne avec Leslie qui nous racontait avoir été victime de sa responsable qui colportait tout un tas de rumeurs sur elle. Leslie, vous disiez que cela vous a mis en danger dans l'entreprise, donc par rapport à votre directeur. Vous dites même qu'à un moment, vous pensez que vous étiez folle, vous êtes devenue parano, vous avez perdu confiance en vous au bout d'un moment ?
Oui, complètement. En fait, il y a un moment donné, comme elle me disait que des personnes colportaient des choses ou répétaient des choses que j'avais dites et qui étaient que j'avais jamais dites en plus, ouais. Il y a un moment donné, bon, bah, comme en fait, en plus, je suis la vraie gentille du groupe, ce qui fait que du coup, je suis toujours en train de me dire, bah, les gens ne peuvent pas être méchants, c'est pas possible. Mm-hmm. Donc j'allais voir tout simplement les gens. Qu'elle me citait en disant mais est-ce que t'as dit pourquoi t'as dit ça, j'ai jamais dit un truc pareil, pourquoi t'as... Et les gens me disaient mais non on n'a jamais rien dit. Et du coup à un moment donné on ne sait plus qui dit la vérité, qui ment, et on devient complètement parano. On se dit mais en fait la personne c'est pas possible, elle se moque de moi, enfin c'est pas ma responsable. Il y a un moment donné oui on devient complètement folle.
Alors, vous aviez l'impression sans doute de perdre pied. Vous sentiez quand même que vous aviez du soutien au sein de l'entreprise, ou finalement au bout d'un moment on ne croit plus personne, on se méfie de tout le monde?
Alors il y a un moment donné on ne croit plus personne. Après il y a eu un soutien, une personne qui est arrivée qui était complètement nouvelle de l'équipe, dans l'équipe, ouais. Qui fait que effectivement c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de réaliser que là il y avait vraiment un souci, que j'étais vraiment en danger. Quand cette personne nouvelle est arrivée et qui s'est rendu compte de ce qui se passait, il m'a dit non, là il y a un truc qui cloche, je lui dis c'est du harcèlement, va-t'en rapidement. Oui. Et effectivement, j'ai mis du temps à me rendre compte, puis à verbaliser tout ça, parce que quand même il y a tout un travail à faire sur soi-même. Et quand en fait je suis partie, effectivement, j'étais une miette. Donc aujourd'hui j'ai encore du mal à reprendre confiance en moi, oui. Ça c'est clair. Mais face à un harcèlement aussi violent, à quelque chose qui vous rend complètement, à un moment donné, fou, ben en fait, c'est vrai que j'ai compris avant de partir pourquoi il y a des gens qui se suicidaient sur leur lieu de travail.
Alors, c'est souvent sur les gentils hein, que ça tombe, tout ça, parce que, bien évidemment, la victime idéale, c'est comme vous, Leslie, qui êtes visiblement une femme gentille et qui ne voit le mal nulle part. Mais avant de finir justement sur votre départ et sur les conséquences de tout cela, j'aimerais revenir sur le fait que ces rumeurs, vous dites que vous les rameniez jusqu'à la maison, à la maison même. Ça veut dire quoi exactement ?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que du coup, effectivement, ça atteint tellement votre morale que il y a un moment donné, effectivement, il y a des conséquences sur votre vie personnelle. À ce moment-là, par exemple, dans ma vie personnelle, c'est un moment qui a été terrible parce qu'elle a essayé de me pousser à divorcer aussi. Parce que, ouais. Comme c'est un pervers narcissique, c'est un peu compliqué. Mais elle a essayé de me dire que en fait mon mari était quelqu'un de nul. D'ailleurs, elle racontait des choses sur mon mari aussi.
Elle avait quand même une emprise incroyable sur vous, cette femme.
Mais oui, en fait, c'est le principe du pervers narcissique. Ça, ouais. ça va doucement mais sûrement. Et à un moment donné, elle a réussi à me faire déménager. J'ai même déménagé dans la même ville. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Mm-hmm. Parce que du coup, c'est bizarre, vous vous rendez pas compte. Quand un pervers narcissique, le but, c'est vous êtes dans son emprise. Et plus ça va, et plus ça grandit, et plus l'emprise grandit. Et plus, en fait, vous êtes presque une marionnette. En fait, à un moment donné, vous n'avez plus du tout... Je me reconnaissais plus, en fait.
Alors, vous avez fini par démissionner. Vous me dites que vous étiez en miettes, mais vous n'avez pas voulu en référer plus haut, dire à votre hiérarchie ce que vous aviez vécu. Pourquoi vous aviez peur de cette femme? Vous continuiez à avoir peur d'elle?
Oui, en fait, c'est la peur qui empêche de faire ça. Il y a d'ailleurs une anecdote, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était de mon ancien travail, un responsable, quelqu'un de haut placé, et j'ai essayé de lui en parler en disant, vous savez, cette personne a vraiment un problème, il y a quelque chose qui se passe dans cette entreprise, il faudrait vraiment que vous résolviez ce problème-là. Et en fait, du coup, déjà d'une, j'étais terrifiée à l'idée de le dire, et en fait, j'ai pas su expliquer bien comme il faut, puisque du coup, visiblement, le haut responsable avait l'air complètement d'être étonné et ne pas prendre mesure de ce qui se passe dans cette entreprise toujours aujourd'hui.
Mais alors, Leslie, on va conclure avec cette dernière question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour reprendre un nouveau travail, ou il y a encore des traces de tout ça?
Alors, ça fait un an que j'ai démissionné, et non. Pour le moment, je crois que je suis plus capable d'être dans une entreprise. Donc je me suis mise à mon compte, parce que du coup, je suis plus capable d'être dans une... Aujourd'hui, en fait, je vais reproduire les mêmes schémas. Je pense qu'il faut que je résolve ce traumatisme. Et j'ai pris j'ai pris les choses en main depuis très peu de temps. Et là, je suis suivie depuis peu par une psychologue spécialisée dans les traumatismes importants comme les attentats ou les choses un petit peu comme ça.
Bon, bah, écoutez, voilà, donc, je vous souhaite bon courage. Ne lâchez pas, hein, prise, hein, parce que dites-vous que dans le monde où l'on vit, il n'y a pas que des personnes comme cette femme que vous avez rencontrée. Il y a aussi des responsables, des gens, des collègues qui sont parfaitement bien intentionnés. Et vous verrez que le futur vous montrera que vous pourrez avancer avec des gens qui sont normaux et qui sont bien intentionnés à votre égard. Merci pour votre témoignage et votre appel sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Nous allons accueillir dans quelques instants Aurore Van de Winkel. Elle est docteure en information et communication et auteure de l'ouvrage « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits ».
Et Julie, à 36 ans, témoigne au 39-21. Sur mon lieu de travail, je suis particulièrement appréciée par mon directeur le jour où j'ai reçu une promotion. On s'est mis à raconter dans mon dos que je couchais avec lui, d'où tous ses privilèges. Mère de famille très atteinte et blessée par ces bruits de couloir, je me suis mise en congé maladie pour dépression. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour nous appeler. Sur Twitter, hashtag Europe 1 pour nous écrire. Nous parlons aujourd'hui des ragots au travail. Que faire quand on est victime?
Et nous sommes maintenant en ligne avec Aurore Van de Winkel, docteur en information et communication et auteur de l'ouvrage « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits » disponible aux éditions Edipro. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, docteur, la rumeur au travail a des conséquences très négatives. On l'a vu dans le témoignage de Leslie, par exemple, qui a été contrainte de carrément démissionner. Peut-on réussir à ne pas écouter une rumeur qui nous concerne et à ne pas y prêter attention?
Ah, c'est assez difficile et ça dépend un petit peu du caractère de chacun. Donc il y a des personnes qui vont être extrêmement touchées, surtout des personnes sensibles, qui veulent bien faire, qui ont aussi souvent tendance à se remettre en question et à ne pas comprendre finalement pourquoi on raconte des choses qui ne sont pas justifiées sur elles. Donc ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de mal à affronter cette situation plutôt que des personnes qui, elles, se moquent complètement de ce qu'on peut dire sur elles. Donc ça dépend vraiment un petit peu du caractère.
Est-ce que vous entendez par là?
C'est vrai que c'est une situation très très particulière, ouais. Puisque cette personne a été victime de vraiment quelqu'un qui avait des mauvaises intentions à son égard. Or, c'est pas toujours le cas. Je veux dire, le ragot ou la rumeur en entreprise, c'est quelque part quelque chose de normal. Et la plupart des temps, on va raconter des choses sur les gens qui nous entourent pour essayer de comprendre un petit peu, bah tiens, finalement, qui est ami avec qui a le pouvoir dans l'entreprise. C'est aussi une façon de pouvoir se créer des liens ou voir de pouvoir dénigrer quelqu'un. Mais dans des rares cas, en fait, beaucoup de gens vont raconter des ragots ou les écouter, mais pas dans l'objectif de nuire à la personne qui est visée. Donc c'est vraiment rare. Malheureusement, même si les personnes ne sont pas dans cet objectif de nuire à la personne qui a été visée par ces racontards, elle peut en subir des conséquences négatives.
Est-ce que la rumeur est révélatrice d'un problème ou d'un dysfonctionnement dans l'entreprise ?
Non, parce qu'il y a des rumeurs et des ragots dans toutes les entreprises. Mais par contre, quand il y a des pics de rumeurs, ça veut peut-être dire quelque chose par rapport à l'entreprise. Donc souvent dans les situations de changement, où justement tous les services changent, il y a des personnes qui vont être nommées à d'autres postes, où il y a par exemple l'arrivée des femmes ou d'un autre type de profil qui arrive dans l'entreprise, on va dire. Et donc tous ces changements, aussi au niveau de l'évaluation du travail de chacun, quand on introduit des nouveaux critères, vont faire qu'on va essayer de savoir un petit peu comment se comporter, qu'est-ce qui va être intéressant ou pas, pourquoi certaines personnes sont mieux évaluées que d'autres, pourquoi certaines personnes ont eu tel poste alors qu'on n'estimait pas forcément qu'elles avaient de meilleures compétences. Et donc, c'est là où on va commencer à s'interroger et qu'il va y avoir des pics de rumeurs. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'interroger. Mais après, c'est normal qu'il y ait de la rumeur en entreprise.
Quelle est la meilleure façon de réagir ? Nier en bloc, se taire, confronter la rumeur, faire diversion ?
Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment si une personne malveillante a été vraiment identifiée. Oui. Là, évidemment, les personnes peuvent porter plainte pour diffamation, pour calomnie, pour harcèlement moral. Hein. Évidemment, il va falloir récolter des preuves pour pouvoir asseoir sa plainte, puisque c'est ça qui est un petit peu le plus difficile, hein, puisque comment prouver que telle personne a dit quoi ? Hein, s'il n'y a pas de preuve écrite, par exemple, c'est extrêmement délicat à prouver. Par contre, quand on voit que c'est finalement plutôt un peu sous le coup un peu humoristique ou c'est des personnes un peu curieuses, mais finalement qui n'en font pas usage de manière répétée et dans un objectif malveillant. Quand ce sont des personnes à qui on a dit que ça nous faisait de la peine, par exemple, et qui ne continuent pas parce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que ça pouvait toucher, dans ce cas-là, évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à des décisions ou à des procédures plus juridiques. Là, on peut en parler à la personne. Évidemment, on peut utiliser l'humour. Mm-hmm. Hein, donc ça peut bien marcher. Ah, mm-hmm. Si vous pensez que je suis, je ne sais pas moi, un homme à femme, par exemple, il vaudra mieux que j'engage des collaborateurs masculins. Enfin, mm-hmm. Voilà, on peut utiliser un peu l'ironie. Il mm-hmm. faut toujours faire un petit peu attention à ce genre de choses. On peut aussi regarder si dans notre comportement, malgré soi, on n'a pas donner un petit peu de grain à moudre. Parfois, c'est vraiment malgré soi. Moi, je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, après des drinks dans l'entreprise, récolte les bouteilles d'alcool, par exemple, qui sont à moitié vides en disant « ben voilà, je vais les mettre dans mon bureau et dès que j'en aurai quelques-unes, je vais les porter à la bulle à verre. Ça ne sert à rien de faire 5 fois le trajet, par mm-hmm. exemple. » Et ben donc, quand un nouveau collaborateur rentre dans son bureau et voit toutes ses bouteilles, il peut se dire « tiens, cette personne est alcoolique.
Ouais. » Docteur Aurore van de Winkel, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en information et communication et auteur de l'ouvrage « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits ». Vous allez continuer à nous éclairer sur ces rumeurs d'entreprise. Dans quelques instants, nous accueillerons Sabrina. On a utilisé sa relation amoureuse avec l'un de ses collègues, mais contre elle.
Quand un collègue... Un supérieur tient des propos faux à votre sujet, parle dans votre dos, colporte des rumeurs dans les couloirs de l'entreprise, des rumeurs qui vous empoisonnent la vie. Venez nous raconter votre histoire au 3921 Collier de la Croix.
Et nous sommes toujours en ligne avec le docteur Aurore van de Winkel, qui est docteur en information et communication et auteur de l'ouvrage « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits ». Et nous sommes maintenant aussi en ligne avec Sabrina. Bonjour Sabrina, merci d'être sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Avec plaisir.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 40 ans et je vous appelle de Bruxelles.
D'accord. Bruxelles. Avant-hier, on avait Liège. Aujourd'hui, on a Bruxelles. Voilà. Et bonjour à toute la Belgique. Alors, vous, Vanessa, il y a une dizaine d'années, vous travailliez dans une compagnie d'assurance en Belgique. Et c'est là que vous avez rencontré un homme qui était l'un de vos collègues. Quand ça a commencé à devenir sérieux entre vous, vous avez voulu l'annoncer à votre patron. Pourquoi ce mm-hmm. choix ? Pour vous protéger l'un et l'autre, pour vous protéger vous ?
De base, oui, dans un souci d'intégrité et pour éviter justement les rumeurs, puisque au final, on avait décidé d'emménager ensemble et donc forcément, on allait nous voir arriver et partir du bureau séparément. Et donc, pour éviter que ça n'arrive à ses oreilles par un quelconque bruit, ouais. On a préféré, voilà, puisque moi j'étais sur un assistant personnel, lui était N-1, donc voilà, on a préféré passer directement, le lui dire directement, parce qu'on était. C'est parti de ce qu'on appelle le personnel de confiance. Donc,
d'accord.
Voilà.
Quel travail faites-vous et votre compagnon, il faisait quoi comme travail ?
Moi, j'étais assistante de direction. Lui était gestionnaire de... contrôleur de gestion, pardon.
D'accord.
Donc voilà, ici en l'occurrence, c'est... parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on s'en était servi contre moi, mais c'est plutôt contre lui qu'on s'en est servi. Et moi, j'ai été un dommage collatéral en fait.
D'accord. Alors, ce patron, il a commencé à colporter à votre sujet juste après cette annonce, vraiment des rumeurs. Quelles étaient ces rumeurs?
Mais en fait, il a été question de harcèlement sexuel de mon compagnon sur moi. Et ça a été très loin. On a sous-entendu qu'il m'aurait presque violée. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, on a 72 heures pour prouver la faute grave. Donc, ouais. On n'a pas réussi à le certifier, à l'évincer. Mais bon, ça a eu des conséquences forcément sur l'ambiance au travail. Mais on ne voulait pas me licencier, mais on m'a proposé un autre poste en interne comme gestionnaire de dossier. Mais bon, quand vous êtes assistante d'un membre du comité de direction, passer à devenir gestionnaire de dossier, en plus les gens vous connaissent, savent.
Est-ce qu'au final, vous pensez que ce patron, il a vraiment sauté sur l'occasion et que vous lui annoncez ça pour vous licencier, vraiment c'était dans sa nature d'aimer colporter ce type de rumeur?
Pas du tout. C'était vraiment dans un but précis et en l'occurrence, c'était vraiment pour évincer mon ancien compagnon qui était contrôleur de gestion. Il faut savoir que l'assurance, la banque en Belgique, c'est quand même très très politisé. Et en tant que contrôleur de gestion, il dérangeait quelque part. C'était un contrôleur de gestion qui faisait bien son boulot et quelque part, il dérangeait pour certains aspects, et que ça aurait pu être un bon moyen de l'évincer, sauf que voilà, la faute grave n'avait pas pu être prouvée puisqu'elle était inexistante. Et qu'à un moment donné, si eux font état d'un harcèlement sexuel, il aurait fallu que moi je témoigne. Or, moi, c'était mon compagnon, donc il n'y avait pas du tout lieu qu'on parle d'harcèlement sexuel en aucune manière. Et donc voilà, du coup, il n'a pas été licencié, il a été déplacé à la holding de cette société à l'époque.
Comment,
ça l'a même desservi au final.
Bien sûr. Comment vous vous êtes rendu compte que l'on disait tout cela sur vous et comment vous avez réagi surtout?
Tout simplement parce que lui a été mis à pied,
oui.
Moi également, dans un premier temps, puisqu'il avait aussi été question comme quoi je lui donnais des informations confidentielles, etc. Ce qui était absurde, encore une fois, dans le sens où c'était un N-1 de mon patron direct. Moi, j'étais l'assistante personnelle. Et en tant que contrôleur de gestion, il avait accès à toutes les informations de type confidentiel, puisque ça faisait partie inhérente de sa fonction.
Alors, on parle là d'une rumeur lancée par votre patron, qui a eu des conséquences, on le voit, gravissimes sur votre travail, sur votre vie professionnelle. Quel impact cela a-t-il eu sur votre couple ?
Sur notre couple, finalement, pas grand-chose, dans le sens où Nous étions soudés, donc sur notre couple, pas grand-chose. Moi, ça m'a mené à... Enfin, j'ai pas démissionné parce qu'effectivement... Enfin, moi, je voulais donc du coup qu'on me licencie et ce qu'eux ont refusé de faire. Ils voulaient que je démissionne puisqu'ils me proposaient un autre poste pour eux qui avaient fait leur part du travail. Moi, je voulais pas démissionner parce que pas droit au chômage, etc., etc., etc.
Ouais.
Donc, je suis allée... Je suis tombée quand même dans une bonne dépression. J'ai eu un certificat médical, etc., qui a finalement mené à une rupture de contrat d'un commun accord. Mais voilà, moi, j'ai perdu mon boulot, un boulot qui me plaisait, en plus, que j'aimais bien, à cause, effectivement, d'une rumeur, et en plus, une rumeur non fondée, quoi. Mais,
On voit combien, en tout cas, une rumeur peut porter loin et avoir des conséquences complètement destructives. Merci beaucoup, Sabrina, pour votre appel et votre témoignage sur Europe 1 cet après-midi. Nous sommes toujours avec le docteur Van de Winkel. Vous restez surtout en ligne avec nous, docteur. Nous allons accueillir maintenant Maria. Elle est encore très touchée par les rumeurs qui ont circulé sur elle, car elle a été très isolée à son travail.
Elle, des rumeurs, des ragots au travail qui vous pourrissent la vie. Vous témoignez sur Europe 1. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et avant d'accueillir Maria sur l'antenne d'Europe 1, j'ai une question pour vous, Aurore Van de Winkel. Elle concerne la loi qui entoure ce type de rumeurs. Lorsque ces rumeurs vont jusqu'à, comme on l'a vu dans les témoignages du début de cette émission, vont jusqu'à des démissions ou poussent des personnes à aller à être en miettes, comme notre première auditrice nous le racontait. Est-ce qu'il y a une loi qui protège les gens de la rumeur ?
Oui, tout à fait. Donc, la loi contre la calomnie, contre la diffamation. Et alors, encore une fois, par rapport au harcèlement moral, le fait de colporter de manière répétée et fausse des rumeurs sur une personne est considéré comme faisant partie intégrante de ce harcèlement. Et donc, il faut utiliser ces trois ressources, la diffamation, calomnie et la loi contre l'harcèlement moral.
Alors, on va justement en parler avec Maria. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Maria.
Oui. Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi, j'ai 49 ans, je vous appelle d'Auvergne.
D'Auvergne, très bien. Alors, vous êtes enseignante et il y a quelques années, vous avez travaillé dans un établissement scolaire. Petit à petit, vous avez constaté que des personnes vous tournaient le dos. Vous avez gardé ça pour vous au départ, mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait. Racontez-moi.
Oui, donc j'ai jamais su ce qu'il en était et réellement, parce que j'avais demandé une table ronde pour savoir ce qui se disait autour de moi, ce qui n'allait pas, quoi. Mmh. Mais mes collègues n'ont jamais voulu faire cette table ronde. Mmh. Donc, si vous voulez, j'ai su, mais dans le tard, une année durant, j'ai souffert parce que personne ne m'a parlé au sein de l'école.
Oui.
J'ai vécu aussi cette année-là, c'était du harcèlement moral, hein, mais qui ne se voyait pas, quoi, voilà.
Mais de quelle manière, en fait? Parce que lorsque vous dites que ça ne se voyait pas, je sais qu'un jour, vous avez voulu aller vers une collègue pour lui dire bonjour, elle a refusé de le faire. Est-ce que ça a été le départ de votre sentiment qu'il se passait quelque chose, qu'on racontait des choses sur vous?
Ah ben tout à fait, ce jour-là, voilà, elle m'a écarté du bras, elle m'a dit je ne parle plus avec toi, je ne discute plus avec toi. Donc voilà, avec le signe de la main, effectivement, me montrant que c'était terminé, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que moi, je me suis renfermée comme une huître dans ma classe.
Oui.
Et petit à petit, ça a été une collègue, puis deux, puis trois, puis jusqu'à ce que les 10 collègues ne me parlent plus du tout. Mmh.
Puisque vous avez remarqué plusieurs fois des messes basses, hein, lorsque vous passiez, en tout cas, il est clair que l'attitude de vos collègues vis-à-vis de vous n'était pas nette.
Bien entendu, bien entendu. Et puis il y avait des moqueries même en réunion collective, quoi. On ne se cachait pas, pour se moquer de moi, quoi. Voilà. Après, ce qui était dit, je l'ai vraiment... jamais vraiment su, quoi.
C'est ça
je
qui...
l'ai su qu'après.
Ouais.
Alors, pardon, excusez-moi.
Vous me direz hein, comment vous l'avez appris et à quel moment, mais vous avez quand même décidé un jour, épuisé, d'en parler à l'inspecteur d'académie. On vous a désigné comme fautive et on vous a dit que finalement, ce n'était pas grave tout ça. Comment est-ce que vous avez réagi à ça?
J'étais très mal. Moi, je partais en dépression. Si je n'avais pas eu mes amis... mon mari, ma famille, j'étais très mal. Je voulais même en finir avec ma vie, quoi. Il y a eu des moments où c'était tellement dur pour moi que j'allais... Alors, j'ai essayé de ne pas m'arrêter parce que je me suis arrêtée 15 jours et je n'arrivais pas à dormir. On m'avait donné des médicaments, mais j'étais très mal. Je ruminais toute la journée. La nuit, je ne dormais pas. Donc, il a fallu que je reprenne mon travail. Mmh. Et j'allais au travail, mais c'était la boule au ventre, quoi. Mmh. C'était tous les jours, je pleurais à la récréation. Je pleurais continuellement. J'étais la petite fille dans la cour qui se faisait un petit peu, voyez, mal voir par les autres subissait des moqueries de ses camarades. Mmh. Quoi, voilà.
On voit en tout cas combien cela peut aller loin et pourrait... avoir eu des conséquences dramatiques vous concernant. Alors, vous dites que vous avez appris finalement de quoi il s'agissait. Alors, dites-moi.
Alors, de quoi il s'agissait? Pas vraiment. Disons que lors du pot de mon départ, j'avais invité pas mes collègues, bien entendu, puisque aucune ne m'adressait la parole, mais les collègues des autres groupes scolaires d'à côté avec qui ne s'était jamais... rien passé, quoi. Mmh. Et ces collègues-là ne sont pas venus, hormis une avec qui j'avais travaillé quelques années.
Oui.
Et cette collègue-là m'a dit « Maria, écoute, je suis venue voir de moi-même ce qu'il en était. » Elle me dit « Je te trouverai splendissante et tout. » Elle me dit « Heureusement, je n'ai pas écouté tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les rumeurs qu'on a fait circuler sur toi.
Mmh. »
Voilà.
En tout cas,
on a dit des méchancetés sur toi. Si vous voulez, ce n'était pas le moment... Comme c'était un pot de départ, j'avais des copains et des copines qui étaient là. C'était pas le moment pour en discuter, si vous voulez. Et cette personne, effectivement, après coup, je ne l'ai pas revue non plus. Elle est partie à la retraite. C'était déjà une personne qui était déjà à la retraite. Donc voilà.
Mmh.
Mais j'ai su qu'effectivement, on avait dit des mots, on avait bavé sur moi, quoi.
Mmh. En tout cas, aujourd'hui, même si vous allez mieux, Maria, je sais que cette histoire est encore assez douloureuse pour vous et elle a fait de vous quelqu'un d'assez méfiante hein, vis-à-vis des autres. Merci en tout cas pour votre témoignage et votre appel cet après-midi sur Europe 1. Maintenant, nous allons accueillir Marianne. Elle a été victime de calomnie, accusée de détournement de fonds, mais elle s'est battue pour faire justice.
Que faire contre les ragots et les rumeurs au travail sur Europe 1? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
On voit au bout de cette émission combien la rumeur peut être destructrice. Est-ce que vous avez été vous-même, Ombline, déjà victime de ce type de choses dans le cadre professionnel?
Non, j'ai été épargnée et si j'en avais été témoin, je pense que j'aurais agi en tout cas.
Alors moi, je l'ai été et je peux vous dire...
Témoin ou victime?
Non, j'ai été victime. Ah. Mais ce que je peux donner comme conseil à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que j'ai toujours adopté vraiment une position, c'est que vraiment tout glissait et que je ne me... souciait absolument pas de ce qu'on racontait de moi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Pour conclure cette émission, nous avons avec nous Marianne. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour Olivier, merci.
Bah, je vous en prie, quel âge avez-vous Marianne?
J'ai 45 ans.
Alors Marianne, je vais résumer votre histoire. Hein. Vous travaillez dans une association et puis pour avoir de nouveaux fonds, vous avez organisé une collecte grâce à un jeu. Sauf que c'est un membre de votre famille qui a gagné le lot, ce qui n'était au final visiblement pas possible. Alors en accord avec plusieurs personnes, vous avez revendu ce lot à une adhérente de l'association et c'est là que tout a commencé. On vous a accusé de détournement de fonds. C'était dans leur intérêt de colporter ce type de rumeur ?
Oui, 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 je pense qu'ils cherchaient que ça. Quand on a des personnes en face qui n'ont aucune crédibilité, ils maintiennent. Ils essaient de maintenir le pouvoir grâce aux rumeurs, grâce aux mensonges. Mmh. Donc voilà, et c'est une force pour eux. Donc,
Sauf que vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, et d'ailleurs c'est pour ça que vous voulez témoigner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-moi.
Alors, ce que j'ai fait exactement, c'est que j'ai décidé de ne pas se laisser faire. Mmh. C'était dur pour moi. C'était dur parce que quand on est attaqué dans son âme, c'est insupportable. Et d'autant plus que c'était injuste. Je pense que quand on est face à une justice, et je pense que ça relève de la nature humaine, donc il faut réagir.
Oui.
Il faut réagir.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bénéficié d'un soutien psychologique pour que je puisse avoir cette force et avoir un professionnel en face de moi qui me dit que tu es sur le bon chemin, que tu n'as rien fait de mal.
Que tu es honnête.
Que tu es honnête, c'est les gens qui sont autour qui sont en train de te faire du mal. Mm-hmm. Ça, c'était très, très important et je pense que je conseille tout le monde de le faire le plus rapidement possible, mm-hmm. de ne pas attendre. Deuxièmement, j'ai eu le soutien de ma famille.
Ouais.
Donc j'ai eu le soutien de des habitants du quartier.
Oui.
J'ai mobilisé toutes les forces vives, toutes les personnes honnêtes pour mener ce combat.
Et au final, toutes ces personnes ont adhéré à votre honnêteté, hein, elles vous ont suivi et au final, vous avez été totalement blanchi. Hein, et puis ce sont surtout les personnes qui ont colporté cette rumeur qui se sont retrouvées, démasquées.
J'ai été obligée de repartir.
Exactement. Ouais. Eh bien, toutes mes félicitations, Maria, parce que vous avez eu beaucoup de courage. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Maria, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi beaucoup à Aurore Van de Winkel pour vos éclairages. Merci à Leslie, merci à Sabrina, merci à Marianne de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Être victime de rumeurs, c'est se sentir vulnérable, isolé, injustement mis en cause. Derrière les ragots se cachent souvent jalousie et médisance, parfois de la simple bêtise. Mais vous pouvez vous en protéger, nous l'avons vu, et réagir. Votre patron, vos délégués du personnel ou la direction des ressources humaines sont là pour vous protéger et assainir une situation qui dégénère, si bien évidemment elle dégénère. N'hésitez pas à leur en parler si vous affrontez ce type de situation comme vous avez pu en écouter dans l'émission. Et puis, je vous renouvelle mon petit conseil. Si vous êtes victime de rumeurs, il faut que ça glisse. Laissez dire.
Vous pouvez continuer d'en discuter de ce sujet et des autres sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de l'infidélité dans le couple. Peut-on la surmonter ? Est-elle pardonnable et rédhibitoire ? Vous avez été trompé et vous avez vécu comme ça une trahison ou vous avez réussi à pardonner. Vous avez été infidèle et vous le regrettez ou au contraire pour vous, ce n'est pas un drame. Appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure à vos côtés.
Merci.
Et chers auditeurs, je vous laisse maintenant avec l'excellent Carl Zéro et ses tontons flingueurs que vous allez retrouver dans quelques instants, juste à 16h.
Bonjour mon cher Olivier, je suis en compagnie de deux nouveaux tontons flingueurs, Christophe Barbier et Alain Chamfort.
À lundi, Olivier Delacroix.
Bien sûr, à lundi et bon week-end.